au quotidien avec Hélène Denis.
Mercredi 9 septembre 2026, j'espère que vous êtes en forme. On a de la belle visite en studio aujourd'hui. Daniel Lachance, notre chroniqueur musique, qu'on accueille toujours avec immensément de bonheur. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Bel été?
Oui. un drôle d'été, je dirais.
Oui?
Ben, je dirais un bel été parce que ça... l'été n'est pas fini encore.
Hein. Mais non.
Donc, je ne me prononcerai pas tout de suite.
Énervé,
mais mettons que lundi, on a eu une belle fin de semaine de fête du travail. Je trouve que les gens sont chanceux, ceux qui peuvent en profiter. Nous autres, on ne travaille plus.
Mais vous avez quand même pu en profiter.
Oui, j'en ai profité. Oui,
oui. Et puis aujourd'hui, Daniel, vous allez nous parler de quelqu'un qui est décédé au début de l'été, le 24 juin.
Oui, j'avais... Je pense que la dernière chronique que j'avais faite, c'était le 17 juin. La semaine d'après, je me suis dit, ah, j'aurais aimé ça, parler de lui, parce que je le connais pas tant que ça, mais j'avais envie d'en parler. Il s'appelle David Clayton Thomas.
Ouais.
Je sais pas si le nom vous dit quelque chose. Mm-hmm. Peut-être que pour plein de monde, ça dit rien. Quand vous allez l'entendre, vous allez probablement le reconnaître.
Oui, je pense que oui.
Toute une voix. Oui.
Merci, Daniel. Serge, fidèle au poste.
Bonjour,
Serge.
Bonjour.
Habillé comme un golfeur aujourd'hui.
Oui.
T-shirt jaune et Bermuda.
Oui, même si c'est un peu frais, ça m'a surpris en sortant de la maison. Là.
Oui, parce que c'est pas chaud. Non. Alors, Serge, aujourd'hui, vous allez poursuivre une chronique que vous avez entamée la semaine passée.
Oui, sur les métiers disparus. Alors, dans les métiers disparus, la blanchisseuse, la loueuse de sangsues qui vous a fait tous un peu frémir. La semaine passée, quand j'ai mentionné
la loueuse de sangsues, un métier.
Oui, il y a le quêteux, la fille du téléphone. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de parler des quatre, mais en tout cas, on va... au moins, je vous promets, la loueuse de sangsues.
Ah oui, ça, on veut l'entendre.
Le quêteux, ça s'est peut-être juste transformé un peu. Peut-être pas disparu.
Oui, on l'appelle
Ça a duré assez tard
peut-être?
Quand même. Hein? Oui, jusqu'à... dans les années 50, il me semble.
Oui, il y avait les bandes quêteux. Ouais, bon, bien, on va en savoir plus avec vous dans cette première demi-heure. Et il est toujours là, il n'a pas disparu. Puisque son métier n'est pas disparu et il est indispensable.
Vous êtes bien aimable.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Hélène, bonjour tout le monde.
Alors, aujourd'hui, en plus des chroniques de Daniel et de Serge, nous aurons la chance de recevoir l'animateur que vous connaissez bien, Denis Martin Chabot, qui est à cette antenne depuis quelques années et qui amorce la 5e édition de L'heure où l'arc-en-ciel, c'est son émission, c'est le titre, L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Oui, il faut bien qu'il y ait un complément. Alors, comment couvrir une campagne électorale d'un point de vue de la diversité sexuelle et de genre? Denis Martin va nous dire ce qu'il va en faire de cette campagne électorale dans son émission. Et on aura aussi la chance de parler avec le chef Antonin Mousseau-Rivard, qui est le porte-parole de Ferme en ville, qui prend son envol le 9 septembre. Et nous aurons aussi des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette.
Thank you.
la pièce Lujon d'Henri Mancini.
Ah, que c'est beau! Alors, allons-y avec la une du Journal de Montréal. 96 chambres à 800 000 vides en pages 4 et 5. C'est Hugo Duchesne qui signe le texte. Des places à 800 000, près de 100 lits encore vides et des projets de construction sur la glace. Près de 4 ans après l'ouverture de la première maison des aînés, le legs de François Legault a du plomb dans l'aile. Les coûts sont devenus faramineux, a reconnu Marguerite Blais, l'ex-ministre à l'origine du concept, en entrevue avec le journal. Il y a actuellement 3384 chambres dans 44 maisons des aînés au Québec, construites au coût moyen de 800 000 $, confirment les données de Santé Québec. De ce nombre, un total de 96 chambres étaient encore vides en juillet dernier par manque d'employés. Au même moment, plus de 3700 Québécois attendent une place au centre d'hébergement et de soins de longue durée, qu'on appelle aussi CHSLD, selon Santé Québec, un nombre à la hausse depuis janvier. Récemment, le journal a révélé que plus de 2400 aînés poiretaient à l'hôpital faute de place. À la une de la presse plus, guerre commerciale du tac au tac, l'escalade se poursuit. Le président américain a répondu hier par de nouvelles mesures à la riposte tarifaire du Canada. Comment s'y retrouver? Il en est question en long et en large dans la presse, mais aussi dans tous les journaux. À la une du Devoir, guerre commerciale, tir groupé contre le bouclier tarifaire de Fréchette. Ses adversaires politiques lui reprochent de remettre ses habits de première ministre en pleine campagne électorale. Et on fait aussi une visite de l'hôpital Équin de l'U2M, l'Université de Montréal. Des nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Francopresse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
La recherche sur l'immigration francophone porte à la fois sur les chiffres et sur l'expérience humaine. Il en est question dans Francopresse.
Oui, c'est que 3 ans après l'ouverture de l'Observatoire en immigration francophone au Canada, c'est la professeure Linda Cardinal qui a présenté une recension des écrits où elle explore les différentes perceptions de l'immigration au Canada depuis les années 60. On est passé d'une Avant les années 60, là, après la guerre, on est passé d'une question de race et de nationalité au capital humain en 1960, puis à la part économique des immigrants dans les années 1980. C'est en 1990 que la francophonie canadienne a commencé à se poser la question, ou la francophonie en général, incluant le Québec, sur la compatibilité de l'immigration avec la francophonie et le bilinguisme dans le reste du Canada. Puis, à l'extérieur du Québec, on a commencé aussi à cette époque-là à réfléchir à, de façon utilitaire à l'immigration par rapport aux besoins des communautés francophones pour aboutir à la première cible en immigration francophone en 2008. Un élément intéressant qui est soulevé par le professeur Cardinal, c'est que les recherches sur l'immigration du côté du Canada anglais évacuent largement la question de la langue dans leur étude. C'est que c'est surtout analysé du côté utilitaire, économique. Ça provoque une espèce de ressac côté anglais qui s'est manifesté notamment l'année dernière. Là, j'avais fait un texte là-dessus sur les débats entourant les points supplémentaires accordés à la connaissance du français dans le programme Entrée Express, qui est un des nombreux programmes d'immigration au Canada. Du point de vue de certains anglophones, ces points-là retirent des places pour les candidats, des candidats encore plus compétents, selon eux, qui ne parlent pas nécessairement français. Puis, selon la professeure, ben, il reste plusieurs questions à étudier dans ce domaine-là, notamment l'accès au logement pour les immigrants, aux nouvelles technologies, puis les réalités différentes vécues par les femmes migrantes.
Sinon, des pêcheurs de la péninsule acadienne sont en difficulté.
Sur l'île de Lamèque, qui est de l'avant-dernière île, là, juste au bout de la péninsule acadienne, il se trouve à cette... sur cette île-là, une importante usine de transformation de produits de la mer qui est en activité depuis 1943. L'usine appartient à une coopérative de pêcheurs, puis on y transformait des poissons et des fruits de mer qui venaient de ces pêcheurs-là, mais de d'autres sources aussi. Au mois d'août, la coopérative s'est placée sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en raison d'une dette de 25 millions de $ qu'elle n'est plus en mesure de rembourser. Donc, on cherche à se protéger de nos créanciers en attendant qu'on trouve une solution. L'usine a accumulé les déficits depuis 2018, puis c'est dans les articles de la Quête des Nouvelles, on rapporte que la perte de la transformation de la crevette en 2024, là, il y avait eu une baisse des quotas, a aggravé la situation en plus. La coopérative essaie de se restructurer, mais pour y parvenir, elle a fermé l'usine de transformation jusqu'au printemps. L'impact de ça, c'est que il y a plusieurs travailleurs qui n'ont pas accumulé assez d'heures ou de semaines de travail pour être admissibles à l'assurance emploi. Donc, il y a plusieurs familles qui se retrouvent en difficulté financière avec des dettes à payer sans le revenu qu'elles avaient avant. Le gouvernement fédéral, lui, est sollicité, mais dit avoir déjà versé beaucoup d'argent à la coopérative, tandis que les règles de l'assurance emploi ne peuvent pas être modifiées facilement. Donc, la question est d'être réglé pour l'usine et les travailleurs.
Oui, la question est loin d'être réglée, en effet. Dans le droit, deux étudiants sur trois ne retourneront pas à l'Université de Sudbury.
Je vous ai parlé il y a quelques semaines, au début de l'été, je crois, du fait que les étudiants de l'Université de Sudbury n'étaient pas admissibles au régime d'aide financière aux étudiantes et étudiants de l'Ontario. La situation n'a pas été réglée au cours de l'été, ce qui fait que plusieurs étudiants n'ont pas les moyens de revenir à l'université. Selon le droit, ce qu'ils ont pu constater, c'est que sur les 30 étudiants qu'il y avait à la fin de la session au mois de mai, qui ont terminé leur première année à l'Université de Sudbury, il y en a seulement 10 qui vont revenir. Il y a une bonne nouvelle derrière ça, c'est que l'université a accepté 67 demandes d'admission cette année, ce qui est une augmentation de 10% par rapport à la première année. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous s'inscrire, mais pour le recteur Serge Miville, ça indique qu'il y a un intérêt soutenu pour la formation qui est offerte à l'université. Pour aider les étudiants qui restent et qui veulent s'inscrire, l'université a augmenté ses propres bourses grâce à ses fonds de réserve, puis elle cherche d'autres solutions de financement pour les étudiants, entre autres avec l'aide d'institutions financières. Puis, du côté du gouvernement, le droit n'a pas eu de réponse, n'a pas eu de mise à jour concernant l'admissibilité des étudiants au programme de bourse. En juin, on disait qu'on travaillait là-dessus, mais ça n'a pas l'air d'avoir avancé.
Une poursuite pour l'éducation francophone se prépare au Manitoba.
Et monsieur Stéphane Allard, qui est un ancien représentant du commissaire aux langues officielles pour la région Manitoba-Saskatchewan, qui lance cette procédure-là. Il dénonce un peu le déséquilibre et le manque d'équité en éducation entre le réseau anglophone et le réseau franco-manitobain. Depuis longtemps, il est allé chercher 20 000 $ au programme de contestation judiciaire pour amorcer des recherches et élaborer une cause qui lié à ce déséquilibre-là pour essayer de le régler. Il donne quelques exemples d'inégalités. Par exemple, à Winnipeg et ailleurs en province, il y a certaines régions où il n'y a pas d'école francophone proche. Donc, les enfants doivent faire environ une heure en autobus pour aller et revenir de l'école.
Et aussi,
ça peut être long pour quelqu'un, pour les jeunes. Les écoles francophones offrent aussi moins de programmes et d'activités, ce qui pousse certains à inscrire leurs enfants dans les écoles anglophones. C'est juste le début de la démarche. Monsieur Allard est en train de terminer le choix de la firme d'avocats qui va l'appuyer, puis il espère déposer un dossier assez solide pour aller chercher une autre tranche de financement pour avancer dans sa cause.
L'Aquilon, maintenant, parle d'une quarantaine d'élèves qui quittent Alain Saint-Cyr. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le prononcer, Alain Saint-Cyr?
Oui.
De Yellowknife?
Oui. Oui, on a peut-être ici un exemple de ce qui peut arriver si M. Allard perd sa bataille au Manitoba. C'est que l'école francophone de Yellowknife dit avoir perdu 40 élèves pour la rentrée, ce qui est presque la moitié de ses élèves de la 6e à la 12e année. Donc, c'est 40 de moins par rapport à juin. La commission scolaire a voulu savoir pourquoi les parents avaient décidé d'inscrire leurs enfants ailleurs. Elle a donc envoyé un sondage aux familles qui avaient pris cette décision-là. Il y a quand même des points positifs dans les réponses, c'est-à-dire que les parents disaient qu'ils étaient très satisfaits de l'éducation offerte, puis de l'enseignement, puis de l'environnement scolaire. L'enjeu n'est pas là. Les raisons principales évoquées pour les changements, c'est le manque d'espace dans l'école, parce qu'elle est plus petite que les autres. Il y a une moins grande offre d'activités parascolaires, puis il y a aussi un désir que leur enfant puisse socialiser avec encore plus d'élèves dans une école plus grande. Il y avait aussi, pour les plus vieux, ceux qui sont à la fin de leur secondaire, un désir de se préparer à des études postsecondaires en anglais, donc de finir leur secondaire en anglais. La commission scolaire souligne que c'est pas, il n'y aura pas d'impact sur le personnel de l'école pour le moment parce que le financement attribué selon les chiffres de l'année précédente. Donc, il va falloir surveiller l'année prochaine si le financement diminue.
Et on termine avec une nouvelle qui est tirée de La Voix acadienne. Tout ce que vous aimeriez savoir sur l'Acadie dans une application, c'est intéressant, ça? Ça pique notre curiosité, oui. En tout cas.
Surtout si vous avez des racines acadiennes, vous allez peut-être être intéressé par cette application-là, qui s'appelle tout simplement Acadie. Elle contient des courtes descriptions sur les lieux et les faits historiques de l'Acadie. Il y a aussi une section sur l'origine des noms de famille qui, d'après le texte de l'Acadie, de La Voix acadienne, est amusant à lire. Puis, par contre, l'auteur reproche une trop grande présence ou une présence trop évidente de l'intelligence artificielle dans certains éléments. Puis on nous dit que c'est juste une première version, là, il va y avoir des mises plus tard. Si ça vous intéresse, c'est disponible pour les iPhone et iPad en ce moment, mais on développe une version Android prochaine pour les prochains mois.
Super, belle initiative. Julien Caillouette, un grand merci pour cette chronique. On se retrouve la semaine prochaine.
Au revoir.
Disparu la suite avec vous, Serge Bradet. Vous commencez par la blanchisseuse.
La blanchisseuse, oui.
Exercice
oui.
de diction.
Oui.
La blanchisseuse.
Un article de...
Sèche le linge. Bon, allez-y.
Un article de Carole Anne Deslebeau de la revue Nostalgie hors série, un numéro de 2024. Les manches rabattues jusqu'au coude, les cheveux recouverts d'une ample capeline, elles frottaient sur leurs planches en tôle cannelée avec ténacité. Ténacité. Depuis l'aurore, les laveuses avaient établi leur camp près d'un clair ruisseau, donnant l'impression d'un tableau des plus pittoresques. J'ai un tableau de laveuse qui me vient en tête, je ne sais pas c'est qui le peint, Renoir, Monet, je ne sais pas trop. Là,
Avec la planche à laver.
Oui, je viens juste d'y penser, là, j'aurais dû regarder.
La laveuse?
Hein?
Vous l'appelez la laveuse?
Non, ça devait être les blanchisseuses, ouais. Il me semble, ou en tout cas. Le métier de blanchisseuse est l'un des rares qui perdurèrent jusqu'à nos jours, bien que son concept fût de tout temps en constante évolution. D'après l'historien Édouard Zotique-Massicotte, un nom bien québécois, la toute première trace d'un service de blanchissage au Québec remonte à l'an 1660. En effet, selon les registres, Marguerite Bourgeois, fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal, recevait 80 livres par an pour le nettoyage des linges d'église. Quelques autres blanchisseuses furent également répertoriées au cours des années qui suivirent, mais ce n'est qu'au 19e siècle que ce métier gagna en popularité avec l'ascension du monde de l'hôtellerie et de la villégiature. D'ailleurs, on dit que à Val-Bélair, vers 1926, la buanderie constituait la plus grosse industrie des environs, alors que 3 familles sur 4 vivaient principalement du lavage effectué pour les gens de la ville de Québec. Travaillant pour des familles bourgeoises ou des hôteliers, ces femmes venaient cueillir le linge sale en charrette afin de le ramener chez elles. Certaines travaillaient à l'extérieur, près d'une rivière, car l'eau courante était préférable à l'eau des puits. Elles y installaient de gros chaudrons en fonte suspendue, lesquels servaient à faire bouillir les vêtements. D'autres, davantage équipés, œuvraient sous un hangar dont le plancher volontairement incliné permettait de mieux faire égoutter l'eau. Toutefois, malgré les différents outils, les techniques restaient vraisemblablement les mêmes. Alors, c'était quelque chose. Tout d'abord, afin de décrasser le linge, la blanchisseuse séparait les composants clairs des morceaux colorés avant d'en soustraire les pièces les plus souillées.
La base.
Oui, qu'elle faisait longuement bouillir avec son lessie à base de cendres de bois.
Ah, ça, je ne fais pas ça.
Ouais. Non.
Après cette première étape adoptée lessive, on passait au lavage, qui consistait à sortir tous les chiffons des cuves et à les étaler sans les tordre dans un baquet, où ils se voyaient nettoyés au savon de potasse, un puissant résidu qui se formait lors de la fabrication du lessie. Par la suite, la travailleuse laissait les vêtements reposer quelques minutes dans cette savonnure, pour ensuite les frotter vivement sur une planche à laver en bois ou en tôle. Ensuite, armée de son essoreuse, constituée de 2 rouleaux entre lesquels elle insérait les pièces, cette dernière en expulsait l'eau, avant de passer à l'étape de l'étendage. Enfin, Une fois les tissus secs, avec doigté, la blanchisseuse les humidifiait d'eau ou de thé et les repassait au fer chaud avec minutie, sans oublier d'humecter les collets et les poignets des chemises d'eau additionnée d'emploi, afin de les amidonner. Finalement, de leur blanche main, elle rapportait ses pièces de vêtements parfaitement pliées et classées par catégorie dans de vastes paniers d'osier, dès qu'elle émanait une douce fragrance de propreté.
Quel travail! J'espère qu'on faisait attention au linge propre.
L'ère de ces savonneuses expira au cœur des années 1950 quand même, ça a duré assez longtemps, au moment où plusieurs buanderies à la fine pointe de la technologie commencèrent à émerger dans les villes.
Et vous aviez raison, Serge, La blanchisseuse, c'est le titre d'un tableau de Pierre-Auguste Renoir.
Ah, Renoir!
Et l'ami Mathieu disait qu'elle avait inspiré La blanchisseuse de plusieurs peintres de cette époque.
Ah ben oui.
Genre Degas.
Maintenant, là, c'est ce qui vous passionne tout le monde, là. Appliquez votre curiosité.
Ah oui, la loueuse de
Sangsue. La loueuse de Sangsue, oui. En Égypte ancienne, les guérisseurs connaissaient déjà les vertus médicinales des sangsues. Mais c'est au 19e siècle que la thérapie par les sangsues atteignit son âge d'or. Dès lors, elle fut essentiellement utilisée comme moyen pour effectuer une saignée, une pratique courante à cette époque. Article toujours de Carole Anne D. Lebeau. Dans les années 1800, la sangsue curative représentait une méthode très répandue au Québec. On s'en servait, entre autres, pour soigner divers maux tels que des infections, des coupures, ou même pour traiter certains troubles mentaux. On traitait tout, hein? La panacée, là. Longtemps considérée comme un remède universel pour presque toutes les maladies, la saignée reposait sur la théorie des humeurs, propagée par les médecins hippocratiques et galéniques. Selon cette doctrine, la plupart des affections étaient prétendument dues à une perturbation des humeurs. Les humeurs, c'est le sang, la bile jaune, la bile noire et le phlegme dans le corps. La saignée était censée rétablir cette harmonie en vidangeant le trop-plein d'humeur. Mais cette forte demande en sangsue en fit une espèce menacée, voire prisée, à un point tel qu'un véritable marché fut mis sur pied. Et il semble même que dans les vieux pays, pour 30 sous, les loueuses de sangsue pouvaient installer jusqu'à 80 petites bêtes à ventouse sur le corps de quelques miséreux, toujours dans un contexte thérapeutique, bien entendu. Toutefois, au Québec, elles intervenaient surtout en autant que revendeuses, fournissant les apothicaires et médecins de l'époque en bestioles vampiriques. Certes, chacune de ces loueuses y allait de sa méthode quand venait le temps de dénicher de nouvelles sangsues, mais certaines techniques firent rapidement leurs preuves. C'est le cas de la méthode du bas de nylon, qui se résumait à cacher un morceau de foie de lard bien saignant dans un bas avant de le fermer d'un nœud. Il suffisait de le suspendre à une branche dans un endroit propice, comme un marécage, et il ne fallait alors que quelques minutes au sangsue pour venir s'y coller afin de sucer le sang du lambeau de chair. Heureusement, la médecine a beaucoup évolué depuis, me direz-vous.
Mais pas fini.
Sachez encore qu'en 2024, c'est-à-dire la revue de 2024, donc on peut dire encore qu'en 2026, l'utilisation de sangsue en chirurgie est toujours d'actualité.
Non.
Ou lors de la transplantation de membres. En effet, elles sont employées afin d'activer le transfert sanguin entre deux jonctions d'un membre qui doivent être recousues ensemble. Et la sangsue se nourrit du sang qui stimule la circulation et du coup va raviver la croissance des capillaires et rétablir le flux dans la partie du bout qui était perdue. C'est fascinant.
Alors, la loueuse des sangsues n'est pas complètement disparue.
Ben, je pense que ça doit être des entreprises maintenant.
Oui.
Fermes d'élevage de sangsues.
Oui.
Et c'est un métier pratiqué par les femmes en plus.
Il n'y a pas
de loueur de sangsues. Il y avait un quêteux. Il y avait des quêteux.
Des quêteux, oui. Là, j'aurais peut-être pas le temps. On va y aller.
Entre le quêteux ou la fille du téléphone.
La fille du téléphone.
On y va avec la fille du téléphone. Alors, trois métiers pratiqués par des femmes.
Oui. Vos enfants et vos petits-enfants seraient bien embêtés s'ils devaient passer par une standardiste chaque fois qu'ils désirent appeler un ami. Ils le seraient encore plus s'ils devaient réserver plusieurs semaines d'avance l'appel d'outre-mer. S'ils veulent parler avec un ami en France. Et pourtant, il y a moins de 100 ans, c'est ce que nous devions tous faire pour entrer en communication avec les uns avec les autres. Un article de Virginie Cloutier-Nault. Au début du siècle dernier, les gens ne pouvaient pas décrocher le combiné du téléphone et composer eux-mêmes le numéro. C'est une standardiste qui devait faire ça. Alors, la connexion se faisait manuellement. Là, on voit ça dans les films des fois. Là, elle allait plugger, brancher la prise.
On pense à La Petite Séduction là, avec Rita Lafontaine et Clémence Desrochers,
ça, exactement,
qui écoutaient les conversations aussi.
Oui. Dans les années 1940, Montréal-Terrebonne ou Montréal-la-Chine étaient des appels longue distance.
Oui.
Aujourd'hui, hein, on
un
appelle à Paris.
Un ongle distance. Je disais ça quand j'étais petit.
Un ongle.
Oui. Et pour parler à quelqu'un en Europe, il fallait réserver son appel environ 2 semaines d'avance. En 1995, Bell Canada lance un service de reconnaissance vocale qui fait en sorte que lorsque les abonnés signalent le 411, soit l'assistance, c'est un système robotisé qui répond au lieu d'un téléphoniste. Et les abonnés sont mécontents de ne plus pouvoir interagir directement avec un humain. Les téléphonistes voient leurs tâches migrer vers la gestion des plaintes, ce qui ne les enchante guère. Même si lors du lancement de son système, Bell Canada assure qu'aucun poste de téléphoniste ne sera coupé, qui arrive, la compagnie se départira de celle-ci en 1999 pour les offrir à la filiale américaine Excel Global Services.
Ouais,
l'émergence de la téléphonie cellulaire et de l'Internet auront raison de ce métier qui était pourtant si important quelques années plus tôt. Et c'était chaleureux.
Ouais, la fille du téléphone.
Ouais.
Et bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres métiers
Il va y avoir le quêteux.
Oui.
Oui. Bien là, on n'a pas le temps.
Non. Vous allez voir une belle exposition là, en fin de semaine.
Oui. Je vais vous en parler d'ailleurs la semaine prochaine.
Okay. Du côté de Québec?
Oui, de Québec, les bijoux de la dynastie de Habsbourg. Les bijoux retrouvés, une partie des bijoux retrouvés de la dynastie des Habsbourg, ce grand empire qui est disparu en 1918.
Mmh.
Et les bijoux ont été cachés durant presque 100 ans à Québec dans une valise. Il y a des photos de la valise qu'on voyait dans les journaux. Une vieille valise, là. Évidemment, elle a 100 ans, la valise, là. Mais l'impératrice Zita, la dernière impératrice d'Autriche-Hongrie, avait confié la valise à une banque. C'était dans un coffre et il y avait seulement 2 membres de sa famille qui étaient au courant, qui se transmettaient l'information.
Ah oui, vous allez aller voir donc des bijoux rares. Merci beaucoup, Serge. Au retour, c'est la chronique musicale avec Daniel Lachance.
Spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and show you the colors that are real. Someone is waiting just for you. Troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride. We'll be right back.
painted pony, let the spinning wheel fly.
On cherche.
Hey, on s'en va au cirque.
Oui, on cherche la mélodie. C'est quoi cette chanson-là? Curé du village, je ne sais pas trop où.
S'en va à la chasse.
Un mille à pied, ça rentre.
Non,
non, non, non,
non. Je pense c'est plus le curé du village.
Mais là, ce n'était pas le curé du village. Non. C'était Spinning Wheel par Blood, Sweat and Tears.
Le groupe Blood, Sweat and Tears, que souvent j'ai entendu des gens les appeler Sweet. C'est Sweat.
Bon, merci.
Sweet, ça veut dire sucré. Sweat, ça veut dire sueur. D'ailleurs, je vous parlais.
Du sang, de la sueur. Ouais, et des larmes.
C'est ça, je vous en parlerai un peu plus tard d'où vient ce titre, ce nom-là du groupe, Blood, Sweat and Tears. Ça, c'est ça, sans sueur et larmes, et on est content que ce soit arrêté là dans l'énumération des fluides corporels. Mm-hmm. Après avoir entendu parler des humeurs de la Bible.
Bill noir, Bill jaune.
On n'aimera pas ceux qui restent. Bon.
Ça, donc, pour nous parler de David Clayton Thomas, qui est mort le 24 juin dernier.
La voix qu'on entendait était celle de David Clayton Thomas. Et souvent, des personnes pensait que c'était un chanteur noir. C'est vrai qu'il a une voix large, imposante, puissante. C'est un chanteur blanc canadien qui était né à Toronto. Donc, je vous parle de lui un peu. Son vrai nom à la naissance, c'était David Henry Thomsett. Donc, Thomsett, ça ressemble un peu à Thomas, là, mais son vrai nom, c'est Thomsett. Il était né le 13 septembre 1941 à Kingston upon Thames. Erreur en partant, là. J'ai dit, c'est un Canadien, mais il est né en Angleterre.
Ah bon, d'accord.
Il a vécu au Canada, mais il est né donc à Kingston upon Thames, au Surrey, en Angleterre. Et il est décédé le 24 juin 2006 à Toronto.
Alors, 2006?
2026. Ouais, j'ai le zéro était pas... On a fil pour ça devant moi.
Manquait 20 ans.
Oui. Donc, mort le 24 juin 2026 à Toronto, une semaine après ma dernière chronique. C'est pour ça que ça a été long avant que je vous en parle. Donc, il est de nationalité canadienne et américaine, même s'il est né en Angleterre. C'est tout un mélange quand même. Donc, c'est un auteur, compositeur, interprète, guitariste, réalisateur, artistique, chanteur. Donc, c'est
quand même multidisciplinaire.
Ouais, multidisciplinaire. Très talentueux. Son père était Fred Thomsett, d'où le nom de naissance, qui était, lui, un soldat canadien décoré de la Seconde Guerre mondiale. Il était stationné en Angleterre. C'est comme ça qu'il a rencontré la mère, qui s'appelait Frida May.
Fred et Freda.
Oui, Frida ou Freda, en tout cas. Frida May, qui était une pianiste. Donc, son talent musical viendrait du côté de sa mère, hein, logiquement. Et elle était venue divertir les troupes de l'armée dans un hôpital de Londres. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Et après la guerre, la famille se sont installés à Willowdale, en banlieue de Toronto, au nord de la 401, j'ai vérifié. Ceux qu'il y a, ne disaient pas n'importe quoi. Ouais. Et à 14 ans, il y a eu une enfance difficile un peu. Ça revient souvent, ça. Hein?
Ouais.
Malheureusement, mais bon.
Après la pause.
Oui, apparemment, son père, probablement, un traumatisme de la guerre, tout ça. Il était violent, il était alcoolique, tout ça. Bon,
ça
tous les problèmes.
Oui,
tous les problèmes qu'on entend souvent. Donc, le jeune David, ça n'allait pas du tout avec son père. À 14 ans, il a quitté la maison. Il vivait un petit peu dans la rue, il volait, il a passé une partie de sa jeunesse en prison parce que il se faisait prendre quand même à l'occasion. Et ça n'a pas été une mauvaise chose dans un sens parce qu'il a appris à jouer de la guitare en prison.
Au cachot?
Oui. Quand un des prisonniers, de ses co-détenus ou collègues, je ne sais pas comment on peut les appeler, est parti, il a laissé...
ses collègues.
Collègues, ouais.
Un chum de cellule. Quand son collègue, chum de cellule, est parti, il a laissé sa guitare. Fait que lui, il n'avait pas grand-chose d'autre à faire, donc ça, il a pratiqué beaucoup la guitare. Et quand il est sorti de prison en 1962, il s'est rendu sur la rue Yonge à Toronto, qui est quand même un endroit assez achalandé.
Là, il avait 19 ans.
Là, il avait voix, vrai. Et il a changé son nom pour un petit peu effacer son passé, parce que ça nous suit.
Oui, on peut
ça.
Comprendre.
Donc là, il est passé de David Henry Thompson à David Clayton Thomas. Ça ressemblait un peu quand même, mais pour lui, c'était comme une coupure.
Il voulait coupure. Faire une coupure, oui.
Il voulait faire une coupure. Il commençait à jouer de la musique R&B de Détroit et Chicago, qui était très en vogue à cette époque-là, à cet endroit-là. Il y a beaucoup d'Américains. C'est pas loin, hein, Détroit, Toronto.
Non.
Il y a beaucoup d'Américains qui venaient jouer ici. Et en 1964, à l'époque des Beatles, lui, il a parti son premier groupe qui s'appelait Clayton Thomas and the Shays. Et il a enregistré quelques chansons, dont une de John Lee Hooker, qui est un bluesman très, très populaire à l'époque. Il a été invité par nul autre que Paul Anka à l'émission Hula Baloo. Ouais, ouais. Donc, il a été invité à une émission sur NBC à New York. Parce que là, il commençait, lui aussi, Paul Anka, à faire une carrière américaine. Son groupe a lancé deux albums en 65 et 66. Et ensuite, il a eu un deuxième groupe qui s'appelait The Bossman. Et il a écrit à ce moment-là une chanson qui s'appelait Brainwashed, qui était un genre de contestation contre la guerre au Vietnam. Ça commençait à monter. On n'était pas encore dans le pire, là, mm-hmm. à la fin des années 60. Mais il commençait à avoir beaucoup de contestations contre la guerre du Vietnam. Et cette chanson-là s'est quand même placée sur les palmarès. Moi, je ne l'ai pas entendue parce qu'à cette époque-là, on entendait pas mal plus des choses qui venaient de chez nous. Ce qui venait de Toronto, c'était un autre pays. On ne savait pas ce qui se passait là. On vous pourrait écouter un extrait de ce qu'il faisait avant d'être dans le groupe Blood, Sweat and Tears. Boom, 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 boom. You knock me out. Or make me jump and shout. Or make me work it on out. With that crazy walk. And that crazy talk. Wow! Walk that walk.
On est donc, dans les années 60, il y a une reprise.
Oui, on est dans les années 60 et puis les chansons qu'on vient d'entendre, c'était bien entendu Boom Boom de John Lee Hooker, Walk That Walk et Brainwashed, c'est la chanson anti-guerre du Vietnam, ouais. On dit. Puis déjà là, vous avez remarqué une évolution. La première chanson, Boom Boom, on ne reconnaissait pas sa voix du tout. La deuxième, on commençait, ceux qui le connaissent, on commençait à la reconnaître. Puis Brainwash, là, c'était comme, OK, dans le tapis, là, c'était un protest song, ouais. Là, fallait que ça blaste un peu. Donc, on voyait que ça évoluait assez vite. Et il a joué un certain temps avec John Lee Hooker à Yorkville, en Ontario. Et après ça, il est parti avec John Lee Hooker pour commencer à jouer à New York. Ils ont fait un bout de temps ensemble.
Il a-tu fait quelque chose avec Paul Anka? Vous parliez de
Paul Anka l'avait engagé, mais je pense pas, non, qu'il ait travaillé vraiment avec.
C'est
Paul Anka animait, ouais, puis Paul Anka animait l'émission à cette époque-là. Donc, John Lee Hooker, il a quitté pour faire une tournée en Europe à un moment donné, mais David Clayton Thomas est resté à New York. Et il y avait un groupe qui s'appelait Blood, Sweat and Tears qui existait déjà, qui venait de lancer un album. Et celui qui avait lancé ce groupe-là à l'époque, c'était Al Cooper. Rien à voir avec Alice Cooper, là. Al Cooper, qui était un chanteur, claviériste, auteur-compositeur, qui avait joué d'ailleurs, c'est lui qui jouait de l'orgue sur Like Rolling Stone de Bob Dylan.
Oui, ah oui.
Ouais, c'était quand même quelqu'un qui était déjà assez connu à l'époque. Petite histoire courte là-dessus. Lui-même, Al Cooper, quand il parlait de. Quand on lui posait la question d'où vient le nom Blood, Sweat and Tears, il essayait de mettre ça bien poétique puis dire. Un soir, je jouais avec B.B. King. C'était tellement intense. Mes doigts étaient en sang et je suais tellement j'avais chaud. C'est tellement intense que j'en avais les larmes aux yeux. Donc, j'ai pensé Blood, Sweat and Tears. J'ai vu une entrevue avec un des musiciens de Blood, Sweat and Tears dernièrement sur YouTube. Il trouvait ça bien drôle. Il dit, c'est pas ça, pantoute.
Il y avait une autre version, lui.
C'est vraiment pas comme ça, c'est arrivé. Il dit... Al Cooper, c'était celui qui voulait vraiment que le groupe fonctionne. Il avait des contacts, il essayait de contacter les promoteurs, tout ça. Il essayait de vendre le projet. Puis à un moment donné, en parlant avec un promoteur, le promoteur, il a posé la question, « C'est quoi le nom de votre groupe? » Les autres, ils n'avaient pas pensé à ça, ils n'avaient pas encore de nom. Fait que là, il s'est mis à regarder en terre parce qu'il y avait plein d'albums, des longs jeux, comme on appelait
ouais,
dans le temps.
Des 33 tours.
Plein d'albums détalés un peu partout au sol. Là, parce que... Puis là, à un moment donné, il a vu... devinerez jamais, un album de Johnny Cash de 1963 qui avait pour titre Blood, Sweat and Tears. Puis ça, j'ai vérifié, j'ai fait une recherche.
Ah,
vraiment.
C'est
vrai. Ouais. Fait que lui, il regardait tout ça, puis à un moment donné, il a vu, hey, c'est bon ça, Blood, Sweat and Tears.
Ah.
Fait que là, il a dit au promoteur, on s'appelle Blood, Sweat and Tears.
Merci que, Johnny Cash.
Ouais, merci Johnny Cash. Fait que toute l'histoire, ça, c'était vraiment juste pour rendre ça un peu plus intéressant. Donc, après le premier album, Blood, Sweat and Tears, Al Cooper est parti, a quitté le groupe parce qu'il trouvait que le résultat n'était pas à son goût, blablabla. Mais les gars voulaient continuer. Il y avait déjà des engagements suite au lancement de l'album. Ils ont dit « on n'arrêtera pas ça là ». Ils ont passé des auditions et quelqu'un connaissait, avait déjà entendu David Clayton Thomas, l'a invité à passer l'audition. Et après les deux, trois premiers mots qu'il a chanté, tout le monde a fait « OK, c'est lui ». C'est comme il y avait une voix envahissante, ça remplissait le studio. C'est comme ça que la carrière avec Blood, Sweat and Tears a commencé. Je me souviens pas, je pense que c'est en 69 qu'ils ont sorti leur deuxième album. OK, le premier album de Blood, Sweat and Tears, c'était en 1968, qui a déjà quand même vendu 10 millions de copies dans... C'est pas, c'était pas,
wow!
Pas
10 mal, millions! Quoi.
Le Blood, Sweat and... Le premier album portait un autre titre. Il y avait le nom du groupe, mais le premier album qui porte le titre de Blood, Sweat and Tears, c'est lui qui a vendu 10 millions.
Okay.
C'est lui qui avait la chanson Spinning Wheel dessus.
Ah, c'est cette chanson-là qui a fait en sorte que ça a explosé.
Qui a vraiment lancé l'album. Il a été au Billboard pendant 109 semaines. C'est quand même quelque chose. Il a remporté 5 Grammys en 70, parce que l'album était lancé en 69.
Super succès.
L'album de l'année, meilleure performance vocale, sans surprise, et d'autres, j'imagine, la pochette, je ne sais pas quoi. Et il y a 3-45 tours de cet album qui ont été des hits. You've Made Me So Very Happy. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je l'ai gardé pour la fin, celle-là.
Okay.
Vous allez sûrement la reconnaître. Spinning Wheel, puis And When I Die. And When I Die, ça me tente pas.
C'est quoi? C'est sombre?
Ben, non, c'est pas si mal quand même. C'est juste que c'est une chanson qui change de rythme souvent. Des fois, c'est un petit peu country, c'est un petit peu... On va peut-être entendre un petit bout. Je me souviens pas dans les extraits, j'en ai mis beaucoup. On va avoir une chance d'en entendre. Et il y a même sur cet album-là, il y a une reprise d'une chanson de Billie Holiday, God Bless the Child. Et c'est là qu'on voit le talent de ces musiciens-là. Ça faisait un petit peu contraste à l'époque. Il y avait beaucoup de musiciens, bon, plus rock and roll, rock, pop, en tout cas. Il y avait toute une panoplie. Eux, c'était vraiment des musiciens plus de jazz qui faisaient de la musique jazz-rock un peu. Il y a beaucoup de monde qui les compare au groupe Chicago.
Mm-hmm,
c'était
c'est
pas
vrai,
mal
y a des
le même son. À mon avis, la voix de David Clayton Thomas était supérieure, là, mais quand même, le style ressemblait beaucoup. Donc, on pourrait écouter des extraits justement pour vous donner une idée de l'étendue de leur talent. Smiling faces, going places. And if they bust you, just keep on smiling through and through. And you'll be amazed at the gaze on their faces as they sentence you.
them that's not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Mama may have, and Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own.
Blood, Sweat and Tears, et je demandais en dehors des ondes à Daniel, est-ce que c'est un groupe qui avait une personnalité? Ils ont connu beaucoup de succès, puis à un moment donné, ça s'est comme un peu dilué.
Il y a deux raisons. Premièrement, il y a eu une occasion manquée, que je dirais. Blood, Sweat and Tears était en presque vedette au Festival Woodstock en 69. La vedette, c'était Jimi Hendrix qui passait en dernier. Ouais. Blood, Sweat and Tears passait juste avant Hendrix. Et là, c'est la troisième journée, on s'était déjà rendu compte que les promoteurs n'auraient pas d'argent pour payer les artistes parce que tout le monde rentrait gratuitement. C'était le bordel, je ne sais pas si vous vous souvenez. Là.
Ben, je n'étais pas là, mais ouais, je me souviens d'avoir vu le film.
On a tellement entendu parler, oui. Donc, le promoteur a dit, il voyait qu'il y a des gens qui étaient en train de filmer. Vous ne payez pas, vous ne filmez pas. Pas question de... Ça, ça a été une erreur parce qu'il aurait pu être dans le film Woodstock, ça aurait pu être très bon pour leur carrière. Première erreur. Deuxième chose, c'est pas vraiment une erreur, mais David Clayton Thomas, je vous ai dit tantôt, bon, il y avait un casier judiciaire au Canada parce qu'il y avait plusieurs vols, des violences, tout ça. Bon, à un moment donné, aux États-Unis, il travaillait aux États-Unis, son visa était échu. Avant de le renouveler, ils ont fait une petite enquête, ils ont fait « Hey man, c'est pas trop recommandable chez nous ». Mais c'était l'administration Nixon, puis ils savaient que David Clayton Thomas était beaucoup contre la guerre au Vietnam, tout ça. Fait que ça les vexait un peu qu'un petit Canadien qui a un dossier judiciaire vienne leur faire la leçon chez eux de dire « contre la guerre », tout ça. Fait qu'ils ont dit « on va y serrer la vis un peu ». Ils ont offert au band, si vous voulez que votre gars ait un visa de travail puis qu'il puisse continuer à travailler ici, vous allez faire une tournée en Europe de l'Est pour l'armée américaine, pour faire un petit genre, tu sais, essayer d'amoindrir les relations entre les pays, parce que c'était la période de la guerre froide. À partir du moment où ils ont accepté de faire ça, il n'y avait pas le choix, ils ont accepté, sinon le band est fini. À partir du moment où ils ont accepté de faire ça, bien, la nouvelle s'est propagée. Puis là, à l'époque, c'était donc très mal vu. Hein. Fait que là, Blood, Sweat and Tears, c'était des traites, c'était des ci, des ça, tout le mouvement contre-culture, ils ont traîné dans la boue.
Donc, est-ce que les musiciens qui faisaient partie du groupe ont délaissé le chanteur?
Non, ils sont allés quand même par solidarité, mais il y en a qui l'ont regretté un peu parce que, bon, c'est un gros sacrifice pour eux. Et après ça, leur carrière n'a pas été complètement finie, mais ça a toujours été beaucoup plus difficile. Ouais. On entendait presque plus parler d'eux autres, même s'ils faisaient des tournées. Mm-hmm. Puis finalement, David Clayton Thomas a quitté le groupe en 1972 parce qu'il était épuisé, puis toutes ces histoires-là, c'était trop. Il est quand même revenu en 75, il est reparti pour faire une carrière solo. Mais sa meilleure époque, c'était vraiment 69, 70, mettons. C'est là. Il a quand même fait toutes les grandes salles dans le monde, le Royal Albert Hall, toutes ces places.
Donc, belle carrière.
Il a eu une très belle carrière.
Avec des moments plus
oui,
difficiles.
Oui, et il disait, je l'ai vu dans une entrevue il y a quelques années, sa grande fierté aussi, c'est qu'il avait réussi à aller faire un concert au Massey Hall à Toronto. Il dit, j'ai joué partout dans le monde, les plus belles grandes salles, puis j'avais jamais joué ici. Donc, il était très content d'avoir pu faire ça.
Et parlant de très content, il y a une chanson qui...
Oui, you make me very happy. C'est pour ça que je voulais finir sur une note positive.
Joyeuse.
You make me very happy.
Merci beaucoup, Daniel. On se retrouve un jour.
Ah, peut-être un mois.
Dans deux, trois semaines.
Ouais,
trois semaines, un mois. Merci. Merci aussi à Serge Bradet. À la prochaine.
Bye.
I lost that love before, got mad and closed the door, but you said, child, just once more. I chose you for the one, now we're having so much fun. You treated me so kind, I'm about to lose my mind. You made me so very happy, I'm so glad you came into my life. The others were untrue, but when it came to loving you, I'd spend my whole life with you. 'Cause you came and you took control, you touched my very soul. You always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy, I'm so glad you came into my
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Oui, merci de le faire. Et il y a de la belle visite en studio de Denis-Martin Chabot, que vous connaissez bien, qui anime au quotidien les lundis, et l'heure où l'arc-en-ciel se lève, qui reprend du service à Canal M pour une 5e saison. Bonjour, Denis-Martin.
Bonjour. 5 saisons, c'est quelque chose, hein?
5 saisons, ouais. C'est bravo.
Ben, merci.
C'est bravo, ça
merci.
Va vite. Ça me fait penser aussi au titre d'un album d'Harmonium.
Ben oui.
Ouais.
Oui.
Alors, la première émission est balado-diffusion de langue française pan-canadien, dis-je bien, sur les enjeux et actualités de la diversité sexuelle et de genre revient. C'est ainsi que vous qualifiez votre émission « L'heure où l'arc-en-ciel se lève ». Alors, cette émission revient alors qu'une campagne électorale bat son plein au Québec avec des enjeux cruciaux pour ces communautés. Alors, Denis-Martin, comment vous allez couvrir une campagne électorale d'un point de vue de la diversité sexuelle et de genre?
Surtout qu'on n'en parle tellement pas.
Ouais,
on entend parler, ben il y a un candidat là du parti conservateur là qui a dû se désister pour des propos particulièrement homophobes.
Ouais.
Alors, on verra. Alors comment on va le faire? Ben je trouve que c'est un sujet qui est mis de côté, qui est oublié, mais qui est crucial, qui est important et on doit en parler. C'est quand même ce qu'on fait dans mon émission de radio.
Alors, on diffusé les lundis.
Des lundis à 17h, oui, puis on est en balado et tout ça.
Ouais.
Alors, on va y aller par des analyses politiques et aussi par des entrevues. On a convoqué un peu tout le monde pour discuter de ça d'ici le 5 octobre.
Bon, alors parlant d'entrevues, parlez-nous de vos invités.
Alors, dès le 14 septembre, je reçois Philippe Schnob du Parti québécois.
Lundi prochain.
Lundi prochain, Philippe qui se présente dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jean, qui a longtemps été un château fort péquiste.
Oui.
Qui, depuis quelques élections, était donc détenu par Manon Massé. Donc, il sera des nôtres pour répondre à nos questions. C'est assez délicat, je vais quand même le dire, j'ai travaillé avec Philippe Schnob longtemps.
Bien oui, vous avez été tous les deux journalistes à Radio-Canada.
On se connaît depuis au moins 30-35 ans facilement.
Oui, oui, êtes-vous des amis?
On est des amis, oui. Alors, c'est toujours un peu délicat, mais
bon... Vous avez des questions un peu corsées à lui poser. Là.
On a toujours des questions corsées à poser. Mais moi, je me fais toujours le comment je pourrais dire? Pour moi, une entrevue, c'est pas un affrontement. Un affrontement, ben c'est un match de boxe, puis on n'apprend rien, juste que, ah, lui, il est bon, il donnait un bon coup de poing.
Ça se coupe la parole, c'est fatigant.
On veut pas ça, on veut de l'information. Ah oui, j'ai toujours des questions à poser qui sont peut-être pas toujours faciles à répondre. Bon, on les pose, puis on les fait dans le respect.
Mm-hmm.
Et dans le cas de Philippe, ben ça va être drôle de le vouvoyer en ondes. C'est ce que je fais avec les gens que je connais.
Pensez-vous qu'il va vous vouvoyer à son tour?
Oui,
il est de l'école de Radio-Canada.
Alors, Roxane Milo de Québec solidaire, qui se présente aussi dans Sainte-Marie-Saint-Jean.
Oui, les deux se font une chaude lutte, hein, je crois.
Tout à fait.
Ouais.
Chantal Rouleau, ministre sous la CAQ, qui va venir aussi nous parler au nom de ce parti, et Jennifer McAvoy, qui est députée du Parti libéral du Québec. On n'a toujours pas eu de réponse du Parti conservateur et de son chef, Éric Duhaime.
Ah, pensez-vous en avoir?
On espère, parce qu'on pense que c'est important de parler à ces communautés-là.
Mais oui, que tous les partis soient représentés.
Tout à fait, tout à fait.
Et en termes d'analyse, comment vous allez faire?
Bien, là, on a trouvé, imaginez-vous une... on a misère à ce que vous voyez en ondes nous-mêmes. Imaginez-vous qu'on a... j'ai trouvé une journaliste qui est une personne trans, mais qui a travaillé longtemps à La Voix de l'Est. Julie Maude Beauchesne, qui est aussi... elle est aussi formée comme psychologue. C'est vraiment quelqu'un de très bien. Et qui va donc faire, pendant les 3 semaines avant les élections, va faire une analyse de tout ce qui touche les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Donc, on va examiner les programmes et tout ça avec elle.
Bon, il y aura une table ronde aussi?
Oui, il y a une table ronde. Alors ça, c'est le lendemain, en fait, la semaine après les élections, nous allons recevoir des gens pour discuter des résultats et qu'est-ce que ça veut dire pour les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Je peux déjà annoncer que Victoria Legault, qui est la directrice générale de l'aide aux trans du Québec, sera avec nous.
Beau programme jusqu'à maintenant. Vous avez des nouveautés aussi à proposer pour cette 5e édition.
On est toujours dans les nouveautés. On aime ça, changer les choses. On va faire une espèce de...
Il y a juste l'animateur qui ne change pas. Mais non, c'est précieux.
Voilà. Alors, le Club des sages, oui, un peu, on répond un peu au Comité des sages. Nous, on aura des vrais sages, des personnes trans, et on va décortiquer les fake news, la désinformation qui circule constamment sur les personnes trans.
Il y en a tellement.
C'est épouvantable. Le genre de truc... moi, je le sais parce que je suis très présent sur les réseaux sociaux. J'en reçois de ces trucs-là. Je me dis, mais voyons donc, on est en 2026.
Il ne faut pas nourrir cette machine-là. Qu'est-ce qu'on fait?
On va rétablir les faits.
Ouais.
Et on a décidé aussi de joindre notre chronique Make America Queer Always et Trans Atlant Queer en une seule qui va s'appeler Les Nations Queer Uni.
Ah! Est-ce que c'est vous qui trouvez les noms?
Ah, on fait ça ensemble avec l'équipe. Puis ouais. Nation Queer Uni, c'est... On va essayer de voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, il se passe beaucoup de choses. Et en Europe, il y a l'élection qui s'en vient présidentielle qui pourrait aussi amener un gouvernement d'extrême droite en France. Comment on va vivre ça? Alors ça, c'est nos grandes nouveautés cette année.
Et puis les retours, parce qu'il y en a des retours, des valeurs
oui,
sûres.
Oui, ben Gengis Grenier, c'est probablement le chroniqueur, je vais le dire, j'espère que les autres ne seront pas fâchés d'entendre ça, mais c'est le chroniqueur préféré. Hein. Je reçois tellement de commentaires à son sujet, qui parle de santé. C'est un infirmier qui vient parler de santé pour les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Un autre retour aussi, c'est Philippe Aubert-Côté, Queer Côté Geek. Parce qu'on aime bien parler des choses un peu bizarres, un peu gays, puis ça fait du bien, puis c'est drôle. À voile et à vapeur, on parle donc de voyage. Il y a le retour de En toute fluidité, Transcontinent Queer, d'une façon différente. J'ai maintenant une journaliste qui est située à Terre-Neuve, Lise Fagnan, va faire la tournée des régions, un peu comme ça se passe avec...
Julien Caillouet.
Oui, en fait, c'est lui qui m'a aidé à trouver cette personne-là. C'est vraiment gentil.
Merci, Julien.
Et oui, notre culture queer, notre rendez-vous... mensuel où on parle de culture et on commence dès la première émission, le 14.
Donc, le 14 septembre, l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec l'incontournable Denis Martin Chabot. Merci, Denis Martin, de vous être déplacé. Puis sinon, qu'est-ce qui arrive avec vous là, cette saison-ci? Vous allez être bien occupé par Au quotidien le lundi et l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Est-ce que vous avez le temps pour autre chose? Parce qu'on sait que vous écrivez,
oui, ben là,
que
je suis dans un projet d'écriture, effectivement.
Un autre projet d'écriture.
Oui, oui. Et puis, pour le théâtre, on va attendre. Je vais prendre une petite pause parce que je peux le dire, j'ai des petits soucis de santé à gérer là, pour les prochaines semaines, mois, mais c'est rien de grave. C'est juste
on n'a pas à s'inquiéter, là.
Non, mais je pense pas.
Pensez à vous.
Je pense pas.
Pensez à vous. Faites bien attention à vous parce qu'on vous veut en forme et pour vous et pour les auditeurs et auditrices. Merci
et
beaucoup, Denis Martin.
Je vous retourne un compliment. Merci.
À la prochaine. Recette pour un cake d'amour, vous avez reconnu certainement cette chanson qu'on entend dans le film magnifique Peau d'âne, Catherine Deneuve qui joue le rôle de la princesse, mais la voix chantée est celle de la choriste Anne Germain et on avait cette chanson-là pour présenter notre invité, le chef Antonin Mousseau-Rivard qui est porte-parole de Ferme en ville qui commence le 9 septembre et Antonin Mousseau-Rivard aura des recettes à préparer puisqu'il signe le menu du banquet d'ouverture. Alors, nous sommes à la recherche de Antonin Mousseau-Rivard. On avait prévu une entrevue avec lui à 45, à moins quart. Et donc, on est un petit peu d'avance et c'est peut-être pour ça qu'on a de la difficulté à le rejoindre, mais on va continuer à saliver en écoutant une autre chanson en lien avec de la nourriture, pourquoi pas, un pique-nique en compagnie de Nino Ferrer.
De la moutarde, du pain du beurre, de petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer. Le poulet pas, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ouvre-boîtes et les tomates, les cornichons.
Les cornichons de Nino Ferrer.
Chemin de croix pour trouver une place en hébergement alternatif. C'est dans la presse d'aujourd'hui. Il y a quelques semaines, Daphné Gagnon a réussi à trouver une place en hébergement alternatif pour son fils ayant un grave trouble de l'autisme en publiant un cri du cœur hautement repartagé sur les réseaux sociaux. Mais pour elle, il est insensé d'en être arrivé à cet extrême pour l'obtenir. En juillet, fin juillet, le fils de 18 ans de Daphné Gagnon a pu recevoir une place temporaire dans un centre adapté à Laval. C'est que son témoignage sur Facebook, partagé des centaines de fois, a fait écho dans le réseau de la santé. La cohabitation avec son fils autiste non-verbal qui vit avec une déficience intellectuelle et un trouble grave du comportement était devenue impossible depuis des mois. Son comportement s'aggrave depuis quelques années déjà, au point où elle doit régulièrement l'amener aux urgences lors de crises. Son fils vivait depuis près d'un an principalement avec son père, mais chaque visite rendait les choses compliquées pour Daphné Gagnon. En nous parlant de sa situation, elle décrit un énorme stress de l'épuisement, de l'appauvrissement, de l'isolement. En mars, il a sauté du haut de l'escalier d'un étage. Résultat, une fracture ouverte du pied à trois endroits, une opération et plusieurs mois d'immobilisation. Il s'en est aussi pris physiquement à sa mère dans un moment de colère, cassant ses lunettes. Autant elle est heurtée comme mère, autant Daphné Gagnon est surprise que de telles choses ne soient pas arrivées plus tôt. On a demandé de la prévention et de l'aide bien avant. Ça aurait pu être évité, s'inquiète-t-elle, comme si ça prenait quelque chose de majeur pour que ça bouge. Comme mon fils, il y en a des centaines, voire des milliers, mais on ne les voit pas parce qu'ils ne sortent plus de chez eux. La confusion et le désarroi de cette mère et d'autres parents sont des sentiments fondés. Il n'existe pas de mécanisme d'accès provincial unique pour l'hébergement. Des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme soutient Santé Québec dans un courriel à la presse. Les plus récentes données recensées en mars dernier font état de 16 296 places en services résidentiels destinés à ces personnes au Québec. De plus, 2192 usagers supplémentaires étaient en attente d'une place. Pour les accueillir, le réseau devrait donc théoriquement gonfler sa capacité de 13 %. Les critères d'admissibilité varient selon le type de ressources d'hébergement recherchées, notamment les ressources intermédiaires, les ressources de type familial, les maisons alternatives ou d'autres milieux de vie adaptés. L'évaluation repose entre autres sur les besoins de soutien et le niveau d'autonomie de la personne, explique Marianne Paquette, directrice des relations médias à Santé Québec. Il ne devrait jamais être nécessaire de se retrouver en situation de crise, de devoir lancer un cri du cœur publiquement pour obtenir de l'aide, répond Daphné Gagnon, qui estime que de nombreuses familles vivent la même situation qu'elle. Les ressources pour adultes, qui sont souvent un projet de vie pour l'individu concerné et ses parents, ont des listes d'attente qui peuvent durer des années. Après le service de jumelage, c'est un Tetris, image Nathalie Boulet, responsable de l'intervention chez Autisme Montréal, en entrevue. En plus des RI et des RTF qui hébergent de 5 à 9 personnes à la fois, il existe des ressources à assistance continue, RAC ou RAC, pour la clientèle à besoins plus importants ou au comportement violent. Mais une place ne garantit même pas un milieu de vie sain ou épanouissant, jugent les intervenantes du milieu qui ont parlé à la presse. L'encadrement est manquant et les connaissances en autisme ne sont pas développées, déplore Mme Boulet. Il n'y a pas d'obligation d'avoir de diplôme, il n'y a pas vraiment de critères d'embauche. Énormément de familles se plaignent de ça, poursuit-elle, citant des situations de négligence et un roulement élevé du personnel. La population qui a un diagnostic en autisme augmente depuis le début des années 2000. Bien que chaque année on fournit les statistiques, il n'y a pas de prise en considération. L'écart se creuse entre les ressources disponibles et les demandes, dénonce-t-elle, demandant que le gouvernement règle le problème. Malgré les défis, des solutions émergent. C'est le cas du projet novateur Chez nous solidaire, un édifice de 19 logements supervisés situé dans la ville de Mercier sur la rive sud. Celui-ci accueille des adultes ayant une déficience intellectuelle légère ou modérée, avec ou sans TSA, chacun dans leur appartement individuel, mais avec la possibilité d'obtenir du soutien des intervenantes. La nouvelle construction a ouvert à l'automne 2025, mais le chemin a été fort complexe, de l'idée jusqu'à la mise en fonction. Le processus entier a pris 13 ans. On trouve actuellement des installations similaires à Brossard, à Salaberry de Valleyfield, à Sherbrooke et aux îles de la Madeleine. Ça existe très peu, souligne Béatrice Pinault, directrice générale de Chez nous solidaire au téléphone. Pour elle, ce modèle est une réussite. Des salles communes remplies, des parents soulagés, des locataires qui demandent déjà à signer leur prochain bail. Dans son cas, plus de 40 personnes figurent déjà sur la liste. Ainsi, à son avis, la formule est à reproduire. C'est un besoin criant, dit-elle. Le 17 août, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, qui ne se représente pas aux élections, a justement reconnu ce besoin. Il a publié le cadre de référence sur les services d'accompagnement intégrés en logement permanent, document qui vise à baliser le développement et l'opération de ce genre de projet. Mais le milieu ne croit pas à une solution miracle. Texte publié dans la Presse Plus d'aujourd'hui sous la plume de William Thériault.
¿Cuánto puede salvar canción escrita del efímero arte en esta alma chiquita. Es un don de sirenas del sonido devoto, pero me ahorra las penas en este corazón roto. Las canciones son bellas, apaciguar heridas, pero nunca son ellas milagros salvavidas. Deja que te revele, que denuncie el delito, que mi corazón duele, que mi corazón duele, que mi corazón duele, aunque suene bonito. Son bellas, apaciguan heridas, pero nunca son ellas milagros salvavidas. Deja que te revele, que denuncie el delito, que mi corazón duele, que mi corazón duele, que mi corazón duele, aunque suene.
C'était Lao Noir, aunque suene bonito. Aunque suene bonito.
Oui, bien malheureusement, on n'arrive pas à retrouver Antonin Mousseau-Rivard, porte-parole de la deuxième édition de Ferme en ville qui s'ouvre aujourd'hui jusqu'au 13 septembre, rendez-vous annuel de l'agriculture urbaine montréalaise. Après une première édition glorieuse qui a attiré plus de 3700 participants, Fermanville est de retour pour mettre en lumière un phénomène en pleine croissance, la diversité et l'agriculture urbaine montréalaise. Pendant 5 jours, le public pourra découvrir ses produits à travers un banquet construit par Antonin Mousseau-Rivard, des menus exclusifs dans une vingtaine de restaurants, une foire et des visites de ferme. Alors, pour avoir toutes les informations, vous allez à www.fermeenville.ca. Alors, on va parler théâtre avec vous, Mathieu. Est-ce que c'est une pièce de théâtre que vous avez vue? Théâtre-danse?
Avec un peu de cirque ou des acrobaties, okay. Des créateurs. Bon. Oui, je suis allé voir Nos espoirs furieux, présenté à la Chapelle Sainte Contemporaine, que
j'aime
je rappelle...
beaucoup ce titre.
Nos espoirs furieux?
Oui.
Oui, ben en fait, c'est... Le spectacle porte très bien son nom, vous allez voir.
Et vous dites que vous aimez... vous appelez comment la Chapelle Sainte Contemporaine?
Oui, Chapelle Sainte Contemporaine, c'est son nom. C'est le nom...
Oui, mais vous avez... Je vous ai interrompu, vous disiez que j'appelle...
Non, qui se situe au 34... au 37
hey, ça commence rue Saint-Dominique. On met de la musique. Non, c'est pas vrai. Alors, continuez.
Oui, c'est un texte et une mise en scène d'Alex Trahan qui est présenté jusqu'au 15 septembre. Et ce spectacle fait partie du 10e anniversaire de la Fratrie, qui est la compagnie qui présente le spectacle. Le sujet du spectacle, c'est comment continuer à espérer quand le monde semble partir dans toutes les directions, sauf la bonne.
Bonne question.
Ben oui, c'est la question que nous pose ce spectacle, Nos espoirs furieux, mais surtout celle que 6 interprètes vont tenter de mettre en mouvement, une chorégraphie créée par Alexia Martel. Ici, comme je le disais, le spectacle, la danse et le cirque se rencontrent pour chercher une réponse qui ne passe pas nécessairement par les mots. Les corps se déplacent, s'entraident, parfois se confrontent, chutent, recommencent à chuter et chutent encore. Il y a de la colère, de la fatigue, mais surtout une volonté de ne pas rester immobile devant ce questionnement. Parce que ça peut être ça, le véritable sujet du spectacle. Que faire de cette lucidité, de notre lucidité, quand elle finit par nous paralyser? Mm-hmm. Alex Trahan ne cherche pas à nous rassurer, mais je vous rassure tout de même, moi, Mathieu Tessier, on n'en ressort pas avec plus d'éco-anxiété. Il propose plutôt de transformer ce sentiment d'impuissance en énergie. Alors le désespoir devient mouvement, la colère devient force, une force collective, et l'imagination un moyen de continuer à agir dans cette situation. Donc nos espoirs furieux portent bien son titre. L'espoir qui est proposé ici n'est pas ou n'est ni tranquille ni naïf. Il est plutôt physique parfois, ou je dirais très souvent désordonné et profondément collectif. Et lorsqu'on voit ces six corps partager le même espace et qui tombent et qui se relèvent ensemble, on comprend que l'espoir n'est peut-être pas quelque chose que l'on possède, c'est plutôt quelque chose qu'on doit d'abord rêver avant de se battre pour le conserver. Alors allez le voir, c'est jusqu'au 15 septembre à La Chapelle Sainte Contemporaine qui est au 3700 rue Sainte-Dominique à Montréal.
Alors vous recommandez ce spectacle pour ne pas désespérer finalement?
Oui, en fait on cherche la réponse avec les artistes sur scène, une réponse qui ne vient pas facilement, mais qui, c'est ça, il faut se battre pour avoir un peu d'espoir.
Oui, et quand on est ensemble aussi, je trouve que ça nous donne de l'énergie et ça nous donne envie d'avancer, de trouver des solutions. Merci, Mathieu. Merci d'avoir été à l'écoute de ce mercredi 9 septembre 2026. Merci, Mathieu.
Ça m'a fait un immense plaisir.
Pour vrai?
Ben oui.
Ben oui. On se taquine. Et merci aussi pour votre chronique théâtrale. On reprend ça en cette nouvelle saison parce que Mathieu sort une fois de temps en temps. Moi, je sors ce soir. Je vais vous en reparler probablement demain ou la semaine prochaine. À bientôt. On se retrouve demain.